BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, bienvenue dans les experts. Il est 9h30, on est ensemble pour une heure de débat et de controverse sur les sujets d'actualité du jour. Avec cette question, comment se porte l'économie française? Oui, on a pas mal de signaux contradictoires. Finalement, après un indice PMI très mauvais hier qui tirait la sonnette d'alarme sur la conjoncture française, après la Commission européenne et le FMI qui ont revu les perspectives de croissance de la France à la baisse, l'INSEE publie ce matin une palanquée d'indicateurs sur les état de santé de notre économie, avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Du côté bonne nouvelle, c'est l'industrie qui se porte plutôt bien au mois de mai. L'indicateur gagne 2 points. Le bâtiment aussi, qui repart légèrement à la hausse. Ceux qui ne sont pas en forme, c'est plutôt les services. Mais globalement, le climat des affaires reste stable, nous dit l'INSEE ce matin. Alors, un niveau pas terrible, mais stable. Quand même, le seul qui inquiète, c'est l'indicateur du climat pour l'emploi, qui lui perd 3 points et il touche son niveau le plus bas depuis la crise sanitaire. Alors, conjoncture, faut-il craindre une récession ou non? On va en discuter avec les experts ce matin. On va aussi faire le débrief, évidemment, de la conférence de presse du Premier ministre Sébastien Lecornu pour voir ensemble comment le Premier ministre gère la crise des carburants. Et puis, comment il va peut-être devoir aussi gérer une équation budgétaire qui se complique de plus en plus. Et puis on reviendra sur cette information, les investissements directs étrangers des Chinois qui en Europe ont bondi de 67% l'année dernière. Plus 67%, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter? Ce sera le dernier thème des experts ce matin. Voilà, il est 9h passé de 32 minutes. On est ensemble pour une heure de débat, c'est parti. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Vittori sur le plateau. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos, face à vous, Philippe Mutrici. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Directeur des études de BPI France et Thomas Grébine. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Responsable du programme macroéconomie et finances internationales du CEPI. Je voulais qu'on commence d'abord par l'actualité politique avant de parler de la conjoncture macro et débriefer un peu ensemble la conférence de presse du Premier ministre, beaucoup de ministres avec lui hier, pour parler de ces aides au carburant face à la crise, une crise qui va durer, a dit Sébastien Lecornu. Il faut qu'on change d'échelle dans les aides puisque ça va durer au moins jusqu'à l'été. Qu'en a pensé Jean-Marc Vittori de cette conférence de presse?
Sébastien Lecornu a fait le job. Il a fait le job, mais avec très très peu de moyens. Hein. Vous vous souvenez...
Peu, c'est ce que disait François Bayrou.
Vous ne vous souvenez sans doute pas, mais pendant la guerre, quand il fallait faire des cadeaux à Noël pour les enfants, c'était difficile, quoi. Hein, donc les enfants, ils devaient se contenter d'une orange, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y a rien dans les caisses de l'État, il n'y a qu'un énorme trou. On a des tensions très fortes hein, sur les marchés de la dette publique. Hein. Ça s'appelle montée des taux d'intérêt à long terme.
Oui.
Donc c'est difficile de creuser encore plus le trou. Et donc on n'accorde pas grand-chose. Hein. Ce qui a été accordé hier, moi j'ai adoré la précision, 710 millions.
Ah, oui.
On en est à préciser la dizaine de millions. Hein, ce qui a été annoncé hier, c'est comme on va répartir 3 gros lots de l'euro million entre 68 millions de personnes. Évidemment, c'est en fait très très peu. Alors, il a fait là où ça faisait le plus mal, et c'est vrai qu'il y a des situations qui sont absolument dramatiques. Hein, je pense à toutes les femmes, parce que c'est beaucoup de femmes qui ont des métiers d'assistance, les aides à domicile.
Les aides à la personne, beaucoup, oui.
À personne, elles ont eu droit à quelque chose. Ça va être tout à fait important. Les infirmières, infirmiers ont aussi eu... Parce que c'est des prestations dont les tarifs sont fixés.
Oui.
Hein, donc voilà, le prix de l'essence monte, donc le prix de la prestation monte, mais le coût de la prestation monte, mais le prix ne monte pas.
Et oui.
Évidemment, là, il faut
compenser un peu.
Mais on peut faire ce qu'on a vu hier, c'est qu'on fait très, très peu.
Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Grébine? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on cible bien? On dit souvent que les aides doivent être timely, targeted and temporary. C'était le triptyque pendant la crise financière. Je me souviens de Christine Lagarde qui nous répétait ça en permanence. Les aides doivent être ciblées, temporaire et versé au bon moment. Est-ce qu'on respecte le bon tempo? et le bon calibre.
Oui, bah, si l'objectif c'est de cibler, bah, là il y a un ciblage, comme l'a dit Jean-Marc. Bon, bah, pour l'instant, ça devrait jusqu'à la fin d'année coûter autour de 1,2 milliard d'euros. Donc il y a aussi un plan potentiellement de soutien au secteur, notamment de la chimie.
Oui.
Qui a été annoncé, qui pourrait être autour de 500 millions, oui. Mais il n'y a pas le détail. Donc
Sébastien Martin en parlait ce matin dans la matinale de Good Morning Business.
Mais après, il y a un arbitrage politique, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une dégradation quand même significative du pouvoir d'achat. On va voir notamment la dégradation de la demande, ce qui se passe sur les services, puisque l'inflation, on peut penser, va augmenter plus fortement en 2026 que les salaires. Et d'autre part, le problème, c'est que les ménages français vont connaître une dégradation du pouvoir d'achat. Et de l'autre, vous avez des aides très ciblées. Mais quand vous ciblez ces aides, ça veut dire que vous n'aidez pas les classes moyennes. Donc ça veut dire qu'on prend le parti que de cette dégradation du pouvoir d'achat. Alors peut-être juste une autre petite nuance, c'est que 1,2 milliard ou 1,7 milliard, c'est vrai que c'est pas grand-chose par rapport aux 70 milliards de la crise énergétique précédente.
Uniquement sur les carburants, de mémoire, hein, en 2022, c'était 7,5 milliards. Hein,
les aides à la pompe.
Les réductions à la pompe.
Mais aussi, on a un peu perdu les ordres de grandeur. C'est-à-dire que quand vous alignez 70 milliards d'euros en deux ans, avant, il y a eu la gestion du Covid, et donc c'est des montants quand même.
Un milliard d'euros. Quoi qu'il en coûte a duré trop longtemps.
Un milliard d'euros, ça reste significatif et a fortiori dans un contexte budgétaire aussi restreint.
Bon, ces aides sont bien ciblées, Philippe Mutrici.
Oui, plutôt bien ciblées. En fait, je dirais que dans un monde idéal, l'économie fonctionne selon un principe de liberté et de responsabilité. C'est-à-dire que quand les prix d'un bien augmentent, les agents doivent s'adapter et moins utiliser le bien. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit en partie pour la consommation de produits pétroliers, hein, puisqu'elle a beaucoup baissé.
14% de baisse, annonce Bercy ce matin, au mois de mai, de consommation des carburants. Le signal prix fonctionne quand même superbement
bien.
Pour la consommation des énergies carbonées.
Et à l'inverse, la vente de véhicules électriques ou l'équipement individuel des particuliers qui en ont acheté pour avoir des bornes de recharge explose. Donc ça, c'est plutôt une économie qui fonctionne normalement. Et si on pouvait être dans une économie...
Et plutôt positif pour l'environnement.
Où tout s'ajuste de cette façon-là, ce serait idéal. Le problème, Jean-Marc l'a signalé, c'est qu'il y a des professions pour lesquelles les salaires sont tellement faibles et fixes que c'est la possibilité de travailler qui est remise en cause. Et donc, pour ces professions-là, on ne peut pas aller vers ce monde idéal. Mais à l'inverse, il y a 3 ans, peut-être 5 ans, ou si on prend peut-être les 40 dernières années, on était dans un autre monde. Le monde où on attend tout de l'État. Donc, dès qu'il y a une crise, l'État paye. Dès qu'il y a une crise, il faut augmenter le SMIC, il faut baisser les impôts, baisser la TVA, etc. Ce monde-là, je pense, c'est un monde complètement révolu.
Ah bon ? Vous n'avez pas l'impression qu'on a une multiplication des demandes auprès de l'État nounou pour une subvention, pour les taxis,
mais
pour
l'État nounou, il peut plus répondre.
Pour les...
Voilà, c'est que jusqu'à présent, l'État nounou, il pouvait répondre. Maintenant, il ne peut plus. Et donc, entre ces deux modèles, si je puis dire, hein, le deuxième n'est pas un modèle pour moi, je trouve que l'équilibre qui a été trouvé hier, finalement, n'est pas si mal. Donc, dans une contrainte budgétaire extrêmement sévère, arriver à cibler de façon très efficace. Alors après, le ciblage efficace, on constate toujours ex poste. Hein.
Oui.
Ex ante, en tout cas, il semble très, très bien calibré. Moi, je trouve que c'est plutôt un bel exercice.
Bon, alors on va y aller hein, sur la contrainte budgétaire quand même, parce que les aides, c'est une chose. La croissance qui ralentit est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et la hausse des taux qui renchérit le coût de la dette, Jean-Marc Vittori. On parle pour l'instant d'un coût de la crise compris entre 6 et 8 milliards d'euros. Est-ce que c'est ce que ça va nous coûter ou est-ce qu'on est encore en deçà de la réalité ?
Moi, je trouve qu'on est dans un monde irréel depuis des semaines là-dessus, parce que tout le monde suppose implicitement que le détroit d'Ormuz va rouvrir demain. Et c'est le cas depuis maintenant plus de 2 mois.
Et oui.
Or, force est de constater que le détroit d'Ormuz ne rouvre pas, même s'il y a quelques supertankers qui ont pu passer ces 2 ou 3 derniers jours. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'état des cuves. Hein. Les derniers super-tankers qui sont partis avant le blocus de fait, ils sont arrivés fin avril, donc il y a encore du pétrole qui est arrivé à ce moment-là. On tire sur les stocks comme des malades, comme on l'a jamais fait dans l'histoire.
Et les infrastructures
L'Agence internationale de l'énergie nous a signalé que c'était une crise plus grave que toutes les crises précédentes. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas mesuré parce que nous n'avons pas eu de pénurie de pétrole physique. Et ça va être...
Il a été très rassurant, Sébastien Lecornu, hier, oui, hein, sur l'approvisionnement.
Mais c'est normal, le président.
C'est pas la façade de l'Ouest.
Le président de la République a été aussi il y a quelques jours. Et c'est normal qu'il tienne ce discours-là. Mais on risque d'avoir, dans les prochaines semaines, pas à l'échelle de la France, mais à l'échelle planétaire, un manque de pétrole. Et à ce moment-là, comment ça va s'ajuster? Là, le mécanisme de prix, on sait comment ça s'ajuste dans ces cas-là. C'est que ça monte.
Vous êtes en train de prédire un baril à 150 dollars très bientôt?
Moi, je dis que si les choses ne changent pas à très brève échéance, on va franchir la barre des 200 dollars.
Ah oui. Non, je vois Philippe Métrici qui n'est pas d'accord.
En 2008, le baril, on dit 150 dollars parce que c'est le pic qu'on a vu, notamment
oui.
en 2008.
Oui.
En euros constants, enfin en dollars constants, 150 dollars de 2008, ça fait 200 dollars d'aujourd'hui. Et en 2008, la situation était moins tendue sur les marchés qu'elle ne pourrait l'être dans les prochaines semaines.
Et le litre était beaucoup moins cher surtout. Il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus. En 2008, on était à 150 dollars le baril. On n'a jamais passé les 2 euros. Aujourd'hui, on est à 110 dollars le baril. Et on est à 2,20 €. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi? Quelle est la différence entre 2008 et aujourd'hui?
Pas regarder ça d'assez près, mais je pense que mes camarades le savent.
Oui. L'euro-dollar qui a changé.
Oui, il y a de ça. Il y a aussi des contributions pour l'environnement.
Parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est l'État qui est le profiteur de crise.
Oui, il y a le raffinage qui est complexe. C'est pas forcément le même pétrole non plus. Il y a du pétrole plus ou moins cher à raffiner. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. Mais le point sur lequel, effectivement, je suis un petit peu moins sombre que vous, Jean-Marc,
oui.
c'est sur la réouverture du détroit. Alors, effectivement, vous l'avez mentionné, hein, il y a quelques bateaux qui passent. L'article des Échos d'hier disait que c'était 4 fois plus cette semaine que la semaine dernière. Donc, c'est une cinquantaine de bateaux qui sont passés, quand même.
4 fois pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Une cinquantaine de bateaux.
Oui. Il y en avait moins de 10 oui. semaines d'avant. Donc,
mais c'est 400 en temps ordinaire. Donc,
c'est, hein. Voilà.
Donc, bon.
On n'y est pas encore. Mais... c'est pas la fermeture totale.
Oui.
Et d'autre part, on sait aussi que les pays du Golfe font des investissements massifs pour contourner le détroit.
Oui.
Par voie terrestre,
nouvelle route,
les biens matériels.
Voilà.
Et donc, moi, sur ce scénario à 150 dollars, je peux pas l'exclure si jamais il y a une reprise de l'intensité du conflit. Mais là, le jeu d'acteurs, c'est plutôt de calmer. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que le baril reste à 105 pour le moment. Il était à 105 ce matin. C'est encore un niveau élevé. C'est pas un niveau dramatique pour l'économie mondiale. Les sujets d'approvisionnement sont peut-être un peu plus préoccupants, mais
oui.
c'est du report. C'est-à-dire que ce qui n'est pas produit aujourd'hui sera produit quand le pétrole arrivera.
Thomas Grabin, vous êtes d'accord avec ça ou pas?
On est en train de s'installer dans une forme de guerre froide. C'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, on pouvait s'attendre que ça durerait 2 semaines, puis 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois. Et les prévisions, notamment de croissance pour l'année 2026, avaient été construites sur le fait que on aurait un prix du baril autour de 90 dollars ce trimestre
oui.
et que progressivement ça allait baisser vers 70-80 oui. à la fin de l'année. Or là on voit bien que on est plutôt sur un baril autour de 100 dollars toute l'année et donc au minimum il y aura une dégradation plus significative de l'activité économique. Donc je sais pas dans lequel des
voilà. C'est grand écart. Hein. J'ai 200 dollars à ma gauche, 100 dollars à ma droite.
Oui,
c'est pas tout à fait les mêmes effets macroéconomiques sur l'économie.
Oui, hein. Rappelons juste que le prix pour la France qui est neutre sur le PIB, c'est 70 dollars le baril en moyenne sur l'année. Donc si on était à 100 en moyenne sur l'année...
On a commencé à 60 dollars, je rappelle.
Et on a commencé un peu en dessous de 60. Si on était en moyenne à 100, on perdrait 0,3 points de PIB. Voilà, donc ça, c'est à peu près le consensus hors effet second tour.
C'est pas rien.
Oui, c'est pas rien. On passe de 1 à 0,7. Là, c'était 0,3. 0,9, on descend à 0,8. Enfin, voilà, on est dans ces eaux-là, mais on n'est pas du tout au bord de la récession, comme certains pourraient nous le dire. Et sur ce prix du baril, ce qu'on oublie aussi, c'est que il y a plutôt des surcapacités de production aujourd'hui. C'est une grande différence avec 2008. Donc, en 2008, il n'y avait pas le pétrole, le gaz de schiste, il n'y avait pas la découverte de tous les nouveaux gisements. Et donc, les
Émirats Arabes Unis.
Merci de m'aider. On s'en sortit de l'OPEP. Donc, on est plutôt dans une situation où, quand le détroit se réouvre, il va y avoir abondance de barils et donc baisse rapide des prix.
Bon, oui, je voulais qu'on revienne sur ça, parce qu'on va parler de récession tout à l'heure. Oui, Jean-Marc.
Tout à fait d'accord, mais c'est, je pense qu'il y a une question d'horizon. C'est-à-dire ce qu'a raconté Philippe, c'est ce qui va se passer à un an. Moi, ce que je vois, c'est qu'on risque d'avoir un goût, avant qu'on ait à la fois des pays qui produisent davantage. On voit bien, hein, aux États-Unis, les producteurs de pétrole de schiste, ils se sont pas remis à produire massivement. Hein, donc, et ça va pas venir instantanément. Donc, oui. Et pareil pour les investissements. Si vous pouvez construire des routes et des camions pour transporter du pétrole au lieu de le faire passer par des super tankers, mais ça va pas se faire instantanément. Donc voilà, je pense que dans un an ou deux, on peut avoir un marché qui s'organise de manière très différente. Mais avant ça, on risque
de la transition risque d'être difficile.
Qui peut être un peu brutal.
Et on a une campagne présidentielle entre les deux. Mais on reviendra en seconde partie de l'émission sur la conjoncture. Est-ce qu'il faut craindre une récession ou pas? Je voulais qu'on reste sur les questions là budgétaires, hein, parce que le ralentissement de la croissance, il n'a pas été acté encore officiellement par Bercy. On est toujours sur une prévision de croissance de 0,9% cette année. Hier, la Commission européenne et le FMI ont réduit ces prévisions. Ça va avoir des conséquences importantes sur notre budget. Le Sénat appelle à l'ouverture d'un projet de loi de finances rectificative pour faire toute la lumière sur l'état de nos comptes publics. Est-ce que c'est une bonne idée, Philippe Mutrici?
J'aimerais bien entrer au Sénat pour pouvoir vous répondre. Mais c'est une bonne idée dans la mesure où on fait abstraction de ce que ça pourrait avoir comme impact politique immédiat sur le gouvernement.
Ah oui, c'est l'ouverture de la boîte à baffes à l'Assemblée. Hein.
Voilà. Donc, avec possibilité que le gouvernement tombe. Donc ça, je pense que c'est immédiatement la réaction qui doit avoir lieu dans un certain nombre de ministères. Mais si on fait abstraction de cette situation très, très particulière, oui, bien sûr, il vaudrait mieux qu'il y ait une loi de finances rectificative et que ce soit l'occasion de poser les vrais sujets et notamment de faire les vraies économies sur les dépenses publiques.
Qui vont se monter à combien? Est-ce qu'on sait, Thomas Grébin, l'effort qu'il va falloir mener cette année pour essayer de tenir notre trajectoire de déficit?
On sait déjà ce que pourrait coûter, alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que ça pourrait coûter.
On parle de 6 à 8 milliards.
6 à 8 milliards.
C'est un peu optimiste, non?
C'est un peu optimiste. Ce qu'on peut voir, c'est aussi l'année dernière, en 2025, il faut se souvenir, on va peut-être parler des économies, Philippe en parlait aussi, il faut se souvenir que, par exemple, Michel Barnier disait que pour l'année 2025, il y aurait un effort budgétaire conséquent qui serait fait avec 2/3 de baisse de dépenses et 1/3 de hausse d'impôts. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2025, les dépenses publiques ont augmenté de 40 milliards. Et quand on regarde l'effort budgétaire, c'est, selon la Cour des comptes, c'est 100% fait par des hausses d'impôts. Il y a eu 23 milliards de hausses d'impôts. Donc ça aussi, c'était un passage de la conférence de presse du Premier ministre hier.
Il a dit pas de hausse d'impôts. Hein. Promis juré, il n'y aura pas de hausse d'impôts dans le prochain budget.
Donc pour l'instant, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Je crains que lorsqu'on arrivera dans les discussions budgétaires à l'automne, il y aura toujours les mêmes marronniers qui vont revenir. Et comme on ne peut pas faire d'efforts sur la protection sociale, alors que c'est là où, de nouveau, c'est
le FMI appelle très précisément à cibler retraite, santé.
On va revenir sur les hausses d'impôts sur les entreprises. Donc.
Mais il faut qu'on arrête de jouer avec les mots. Enfin, quand on gèle un allègement sur les cotisations sociales, ça revient à augmenter les prélèvements.
Alors allons-y, parce que ça a été confirmé ce matin.
Il faut arrêter de jouer sur les mots avec cette histoire-là.
Les impôts vont augmenter, Jean-Marc Vittori.
On va arrêter de faire des cadeaux aux entreprises. On augmente les cotisations payées par les entreprises. Et donc, quoi que dise le politique, et on comprend pourquoi le politique dit ça, mais la réalité, c'est pas que les impôts n'augmentent pas. La réalité, c'est que les prélèvements vont déjà continuer d'augmenter.
Bon. Oui, j'ajoute que cette annonce sur les charges sociales, il y a un lien immédiat avec le sujet emploi que vous avez évoqué tout à l'heure.
Oui.
Donc,
qu'on rappelle le cadre, Philippe, d'abord. Le sujet un peu technique des allègements généraux sur les bas salaires. Entre 1 et 3 SMIC, on a baissé les allègements de charges pour favoriser l'emploi, effectivement. Et la hausse du SMIC prévue au 1er juin fait que l'ensemble des allègements de charges, 83 milliards, si on met tout ensemble, va augmenter mécaniquement. Et là, Bercy a dit, bah non, il n'y a que le SMIC qui augmente, donc les allègements de charges, ce n'est pas jusqu'à 3 SMIC. Et là, il y a un bras de fer qui s'est tenu ces derniers jours entre le patronat et Bercy, assez costaud. Bon, bah, on a eu l'arbitrage ce matin, si les allègements de charges seront bien gelés. C'est donc une...
Ça fait 2 milliards de hausse de voilà. coûts pour les entreprises.
2 milliards, c'est donc une hausse d'impôts pour les entreprises.
C'est 2 milliards de coûts sur la masse salariale. Ça concerne, comme vous l'avez dit, les emplois au-dessous de 3 SMIC, mais en fait, essentiellement, la majeure partie entre 1 et 1,5. Hein, donc, c'est la partie la plus fragile oui. de la population qui est... concurrencé par la robotisation, par peut-être l'IA, c'est pas encore, j'y crois pas, mais enfin en tout cas par des technologies, mais surtout, mais adoptons un point de vue microéconomie du chef d'entreprise. Donc lui, qu'est-ce qu'il a ? Il voit que sa masse salariale va augmenter, mais pas ses ventes. Que voulez-vous qu'il fasse ?
Eh oui.
Il va, enfin je sais pas,
les ventes,
il va essayer de garder le plus longtemps, on le sait d'après toutes nos enquêtes, qu'il y a un phénomène de rétention maximale de main-d'œuvre depuis 2018 où les chefs d'entreprise ont tellement peur d'être en pénurie de compétences qu'ils essaient de les garder les plus longtemps possible. Mais il y a un moment où ça n'est plus possible. Et donc, de toute façon, dès qu'on touche dans cette zone-là au coût du travail, immédiatement, les salariés les moins qualifiés le payent et se retrouvent au chômage. Le chômage, il augmente depuis à peu près un an. Hein, donc, lentement.
Ça veut dire qu'il faudrait désindexer le salaire minimum? On arrête l'augmentation automatique.
C'est pas non, je pense que c'est plutôt c'est du côté. Non, dans un monde idéal que j'évoquais tout à l'heure, liberté, responsabilité, oui, on n'y est pas dans ce monde-là, donc on ne peut pas le faire tout de suite. En revanche, dans un monde tel qu'on l'a aujourd'hui, ce n'est pas sur les charges sociales, les exonérations de charges sociales et oui. le coût du travail qu'il faut faire des économies. Comme le disait Jean-Marc, comme le dit le FMI, c'est sur les dépenses sociales, la santé et la retraite essentiellement.
Ben oui. Thomas Grébin.
Et aussi, le problème, c'est qu'on aggrave les difficultés structurelles du modèle économique français. C'est-à-dire que cette structure des charges, qui est en grande partie héritée des années 90, c'est à une époque où on voulait développer les emplois de services non qualifiés. Et dans une époque aussi, ça a accompagné le mouvement de désindustrialisation. Donc, on aidait les emplois au niveau du SMIC, qui sont essentiellement quand même des emplois de services. Par exemple, oui. on regarde, il y a 30% des salariés dans la restauration ou l'hébergement qui sont... payés au SMIC, quand vous regardez dans le secteur manufacturier, c'est 5%. Donc, quand on parle de ces emplois au niveau du SMIC, c'est quand même beaucoup d'emplois de services. Donc, bref, on a cette structure d'allègement de charges qui reflète un choix politique de favoriser les emplois de services au détriment de l'industrie, et on voit que c'est très difficile de revenir en arrière. L'autre,
avec un coût, je le rappelle, qui est passé de 50 à 80 oui. milliards en 5 ans.
Mais ce coût, il est aussi pas du fait qu'on a des dépenses qui augmentent de plus en plus. On a 14 points de PIB de retraite, 2 à 3 points de PIB de plus que nos voisins. Ben, il y a un moment, d'un point de vue macro, ça se répercute dans le fait qu'on a des impôts qui sont plus élevés. Donc après, il y a des questions de tuyauterie sur comment on répercute et quel type d'impôt on fait payer. Mais au final, on a un niveau d'imposition qui est plus élevé que chez nos voisins. Et donc, ce qui veut dire aussi que, par exemple, le financement de la sécurité sociale repose beaucoup plus sur les secteurs abrités de la concurrence internationale, donc en partie une partie des services, que sur les secteurs exposés à la concurrence internationale qui sont beaucoup plus taxés. Et on a une structure d'allègement de charges qui est relativement inédite au niveau européen, où on a des allègements quasi totaux au niveau du SMIC. C'est
100%, je crois.
Alors qu'on taxe beaucoup plus les emplois qualifiés. Donc là aussi, ça accentue ce problème que si on veut réindustrialiser. Et un dernier point, c'est que si on gèle ces barèmes, ben ça va encore accentuer le problème de la pente. C'est-à-dire cette question de la smicardisation.
Et oui, c'est aussi une trappe à bas salaire, hein.
De l'économie française. C'est-à-dire que ce sera encore plus difficile ou plus coûteux d'augmenter les salaires.
rappelle qu'il faut augmenter de 500 euros un salarié brut pour qu'il ait 100 euros de plus au-dessus du SMIC. Philippe, puis Jean-Marc.
Mais moi, ça me, ce débat-là me met dans un état de colère très profond, en fait. J'ai vraiment l'impression que les Français sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Je ne sais pas si vous connaissez cette fable villageoise. Dans un village, il y a une poule qui pond des œufs en or tous les jours, et le village s'enrichit. Sauf qu'on trouve qu'il n'y a pas assez d'œufs. Et donc, ils se disent, on va tuer la poule parce qu'elle a certainement de l'or à l'intérieur. Il n'y a pas d'or à l'intérieur de la poule. La poule, c'est les entreprises aujourd'hui qui nous pondent tous les mois des salaires, de la valeur ajoutée, etc. Et on est en train de la tuer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faut trouver des recettes en France, on va vers la poule aux œufs d'or, celle qui crée de l'emploi et de l'économie. Et
d'ailleurs, de moins en moins en France, la poule. Mais...
Et on regarde de plus en plus dans le champ d'à côté, la poule.
Et j'aimerais bien, je voudrais quand même qu'on fasse le travail entre économistes. Combien l'État récupère-t-il quand le chômage baisse et combien perd-il quand le chômage augmente? Parce que ce qu'il va gagner d'un côté 2 milliards, il va le perdre de l'autre avec l'augmentation du chômage.
Avec le pétrole, ça pourrait être intéressant de le faire avec l'emploi, effectivement, Jean-Marc.
Je voudrais même rappeler que les allègements de cotisations sociales qui ont été lancés à partir des années 1990, il y a même une très bonne raison derrière, hein, c'est qu'on avait un emploi de la main-d'œuvre non qualifiée qui était qui posait vraiment problème, avec un chômage qui était beaucoup plus élevé que chez les voisins. Et pourquoi ce chômage était beaucoup plus élevé? Parce qu'il y a des cotisations sociales massives en France, plus massives que pratiquement partout ailleurs. Donc il y avait même une raison, c'était pas ça, voilà.
Oui, oui.
Il y avait même une
raison. Et ça a plutôt bien fonctionné, d'ailleurs.
Et une excellente raison, quand on a commencé à baisser les cotisations sociales, le taux de chômage en France était de 12%, et il était beaucoup plus élevé qu'il n'est aujourd'hui sur la main-d'œuvre non qualifiée. Absolument. Donc il faut même avoir un tout petit peu ça en tête avant de se dire on peut geler tout ça, arrêter tout ça, c'est des cadeaux aux entreprises.
Oui, oui. Alors après, je rappelle, 2014, avant la transformation du CICE, 20 milliards de coûts à peu près, on a multiplié par 4 la facture budgétaire. Encore une fois, c'est une vision budgétaire.
Oui, mais quand on regarde après cette augmentation de la facture, pour les entreprises, les cotisations sociales restent extrêmement élevées en France par rapport aux autres. Oui. Enfin, on a mis un cotère sur une jambe de bois. Hein. On a dit, il y a beaucoup trop de cotisations sociales. Elles sont trop compliquées à payer pour les entreprises, donc on va les abaisser. Et donc maintenant, on dit, cet abaissement de cotisations, c'est un cadeau
pour
l'entreprise. Ben oui, mais c'est parce que les cotisations sont absolument colossales dans ce pays.
Thomas Grabin.
C'est sûr que d'un point de vue pour améliorer structurellement l'économie, on pourrait penser plutôt à une désindexation des retraites. Alors une désindexation totale, c'est ni possible politiquement.
Je rappelle que la pension moyenne est de 1500 euros
Donc c'est pas souhaitable. Mais s'il y avait une désindexation totale, ça rapporterait quand même 8 milliards, juste pour donner, avec une inflation autour de 2%. Donc juste pour donner un ordre de grandeur. Et après, il y a d'autres mesures. Par exemple, l'abattement de 10% sur les retraites, qui est un héritage de Raymond Barre à une époque où les retraités étaient beaucoup moins bien payés les pensions étaient beaucoup plus faibles que les revenus
des actifs, le niveau de vie, bien
sûr. Ça se justifie de moins en moins, et cet abattement, si on le supprimait, ça rapporterait entre 4 et 5 milliards, donc le double du gel du barème des allègements de charges. Et si on proposait par exemple un montant forfaitaire qui permettrait de favoriser relativement les petites pensions, ça permettrait d'économiser autour de 2 à 3 milliards. Donc il y a quand même des mesures qui sont beaucoup plus difficiles à faire passer politiquement, mais qui ne dégraderaient pas la situation structurelle des entreprises.
On en parlait cette semaine avec Jean-Hervé Lorenzi, qui plaidait pour la suppression de l'abattement pour frais professionnels des retraités. Il nous expliquait qu'il avait reçu des menaces de mort après avoir soutenu cette mesure. Donc on voit que c'est compliqué. Allez, il est 9h passé de 58 minutes. On se retrouve tout de suite après une petite coupure pub pour parler conjoncture. Faut-il craindre une récession? Et puis, cette vague d'investissements chinois en 2025 sur le sol européen, plus 67%. Est-ce une bonne nouvelle ou est-ce qu'il faut un peu s'en inquiéter tout de même? On se retrouve tout de suite.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business. BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business pour les experts, avec autour de la table Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France, et Thomas Grébine, responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. Alors allons-y, on a un peu défloré le sujet dans la première partie de l'émission, mais je voulais qu'on s'arrête sur les indicateurs de conjoncture qui ont été publiés. Alors, ce matin, on a une palanquée d'indicateurs sur le climat des affaires dans différents secteurs publiés par l'INSEE. Hier, on a eu un PMI qui a tiré la sonnette d'alarme au mois de mai sur les perspectives des directeurs d'achat. La Commission européenne et le FMI qui, tous les deux, ont dégradé les perspectives de croissance de la France. Alors, la question est très simple. Allez, je commence par vous, Philippe. Est-ce que il faut craindre un risque de récession en France?
Alors, écoutez, j'ai assisté ce matin à un débat extraordinaire. Je dis à tout le monde, il faut le regarder en replay. C'était sur une chaîne BFM Business et c'était Raphaël Legendre face à Emmanuel Lechypre. Voilà. Ben, Raphaël, j'étais complètement de votre côté. Franchement, le risque de récession, il est évoqué parce que, notamment, l'INSEE a publié un mauvais chiffre pour le premier trimestre qui a surpris tout le monde.
Croissance zéro.
Croissance zéro, là où la Banque de France attendait 0,3. Et les prévisions de la Banque de France corrèlent très, très bien avec les prévisions du PIB. Donc ça, c'est effet de surprise. Dans cette explication de PIB à zéro, vous l'avez dit très justement ce matin, il y a un gros effet exportation qui ne sont pas arrivés et qui jouent
pour... Les livraisons d'Airbus, effectivement, qui tardent un peu.
Mais qui tardent, il y a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, notamment sur les moteurs, etc. Donc, c'est un peu, je dirais, un... conjoncturel, et c'est pas forcément un reflet de l'ensemble de l'économie française. J'ajouterai un petit point, le chiffre de l'INSEE est absolument fiable, je ne remets pas en cause, mais je rappelle que c'est un chiffre provisoire et qu'il arrive, enfin même régulièrement, hein, le chiffre définitif est rarement le chiffre provisoire, il peut être corrigé
peut être à la hausse, parfois assez sensiblement.
La révision moyenne est de 0,2%.
Voilà.
Hein, donc quand vous avez un zéro, peut-être que dans 2 ans, peut-être qu'on dira que c'était moins 0,2 ou plus 0,2.
Exactement. Voilà. Moi, alors, je suis clairement du côté plus 0,2. Ce sera peut-être plus 0,1, mais je suis clairement du côté plus 0,2.
Ensuite, c'est ce que dit votre étude, hein, cette semaine, BPI France, Rex et Code sur la trésorerie des entreprises. Vous êtes plutôt finalement optimiste.
La deuxième source d'inquiétude, c'est les PMI qui sont sortis hier et qui seraient les plus mauvais, sont les plus mauvais depuis le
Covid. Depuis le Covid.
Bon, on n'est pas dans l'année du Covid, on va pas avoir moins 7% de croissance à la fin de l'année. Enfin, on peut pas comparer, même si Jean-Marc dit que c'est important, que le baril peut continuer de monter. La crise énergétique qu'on a aujourd'hui n'est même pas au niveau de celle de l'Ukraine. L'électricité en France n'a pas bougé. Le gaz, c'est plus 50%, c'est beaucoup, mais c'était plus 900% en 2022. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et effectivement, l'enquête qu'on a sortie, alors... elle est un petit peu plus ancienne que les PMI, je reconnais, donc les choses ont pu changer, mais elle dit quoi? Elle dit que pour 85% des chefs d'entreprise se disent capables d'absorber avec leur trésorerie les conséquences du conflit s'il dure quelques mois. Et en fait, tout est dans le quelques mois.
Oui.
Donc, quelques mois, c'est combien? C'est 2. À 2, on était consensus d'économistes. À 2, il n'y aurait quasiment pas eu de conséquences sur la croissance mondiale. On est au-delà de 2. On arrive à 3, 4 mois, peut-être même plus jusqu'à l'été. C'est ce que disait le Premier ministre hier. Donc, il va y avoir des conséquences économiques négatives. Mais de là à dire qu'on entre en récession, moi, je trouve que c'est vraiment prématuré.
Bon, Jean-Marc?
Alors d'abord sur les indicateurs, le PMI, c'est un indicateur qui ne marche pas pour la France. Tous les conjoncturistes le savent, on continue de s'exciter chaque fois qu'il sort. Je ne comprends pas pourquoi, quand vous regardez le PMI avec les indicateurs d'activité qui sont publiés ensuite, il n'y a aucune corrélation. Donc PMI...
Allez, à la niche. Hop, ça c'est fait.
Première chose. Deuxième chose, les indicateurs qui sont sortis ce matin et l'enquête de BPI France qu'évoquait justement Philippe montrent que ça bouge pas beaucoup, qu'on a de la résistance. Et quand vous discutez avec des gens en entreprise, on voit bien qu'il y a une résistance que je trouve moi assez impressionnante. Hein. Dès le 28 février, les entreprises ont commencé à réajuster, à réaffecter leurs forces, à redéployer, à voir là où elles pouvaient économiser un peu, là où elles pouvaient accélérer. Enfin, franchement, je pense qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas cette réactivité. Hein, mais les entreprises se sont prises.
Elles ont gagné en vélocité.
Se sont prises de telles.
La permacrise, ça entraîne.
De crise entre,
complètement d'accord.
Si vous prenez Covid, invasion de l'Ukraine, crise d'approvisionnement, flambée des prix de l'énergie. Ça fait une série de crises. Il y a 10 ans, il y avait un mot que les experts en management employaient à tout bout de champ, qui était agilité. Alors, c'était vraiment le mot
ultra la mode.
C'est devenu une réalité dans beaucoup d'entreprises. Et donc, je pense qu'il y a une résistance. Alors, si on continue de manquer, si on manque effectivement de pétrole, je pense que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais pour l'instant, on a une résistance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas perdre quelques dizaines de points de croissance. Hein, et quand on a une croissance qui est à 1%, quand on se prend un choc, c'est évidemment plus ennuyeux quand on a une croissance à 3 ou 4%. On voit bien que pour la Chine, c'est moins dramatique que pour la France. Parce que quand on a 1% et que vous prenez un choc, vous risquez de tomber à 0,5. Vous n'êtes pas très loin de zéro.
Oui.
Pour l'instant, il y a de la résistance.
Bon, et en même temps, j'ai envie de dire, si on a une croissance de 0,9 ou de 0,7 ou même de 0,5, est-ce que ça va changer fondamentalement la phase de l'économie française?
Et ça fait juste, avant de laisser Thomas, ça fait même des milliards de moins dans les caisses de l'État.
C'est budgétaire, ouais.
ça,
d'abord et avant tout.
Je rappelle que quand on a commencé à calculer le PIB il y a 3 siècles, c'était pour voir combien l'État pourrait prélever d'argent. Hein. Moins de richesses produites, ça veut dire moins d'argent dans les caisses de l'État, et ça, on n'y coupera pas, mais ça rejoint la première partie de la discussion que nous avons eue.
Un PIB à 0,5, c'est 15 milliards à trouver dans nos dépenses, effectivement. Thomas, récession ou pas ?
L'économie française est résiliente, mais maintenant, elle est quand même très, très faible. Enfin, la croissance est très faible.
Oui, c'est pour ça qu'elle ne bouge pas beaucoup, oui.
Une croissance très faible, ça veut dire une dégradation du pouvoir d'achat, ça veut dire moins de carnets de commandes moins remplis pour nos entreprises. Ça veut dire aussi une dégradation de la situation de l'emploi. Donc ça aussi, c'est quand même...
Mais ça, l'indicateur n'est pas bon ce matin.
C'est quand même une mauvaise nouvelle. Et puis bon, alors si on veut être plus positif, on peut se comparer à notre grand voisin allemand, où là, il y a les prévisions de croissance ont presque été divisées par deux, et c'est quand même relativement surprenant. Alors même qu'il y a un plan de relance sur les infrastructures ou sur les dépenses militaires, on voit que la croissance allemande pourrait être autour de 0,6 points de PIB à l'horizon 2026, donc moins que la croissance française. Donc là aussi, c'est quand même, on a notre principal partenaire économique qui n'est pas en récession, même si peut-être...
Qui sort de deux ans et demi de croissance négative, quand même extrêmement fragilisé.
C'est aussi le cas pour, on regarde l'économie italienne.
Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous.
Évidemment que ce n'est pas une bonne nouvelle pour la zone euro, c'est une mauvaise nouvelle. L'économie italienne aussi, on a une croissance autour de 0,6, 0,7, donc aussi plus faible que la croissance française. Donc on est quand même dans une zone euro où il y a une croissance qui est relativement atone, et en effet, on est encore plus fragile si le pétrole, alors je ne sais pas s'il devait aller à 150 ou 200 dollars, évidemment, ça dégraderait encore plus les perspectives. Donc il y aura une difficulté sur la demande et sur les services, et puis on est aussi face à une industrie, notamment manufacturière, qui est très très fragile. Et c'est pas avec une demande à tonnes qu'on va booster les ventes domestiques.
Étonnamment, le climat des affaires dans l'industrie, là, au mois de mai, prend 2 points, est à 102. On peut expliquer ces indicateurs de l'INSEE. À 100, c'est la moyenne historique. Si vous êtes sous les 100, c'est plutôt que ça ralentit. Si vous êtes au-dessus, c'est que ça accélère.
Exactement.
Bon, là, c'est 102, l'indicateur, ce matin.
Je voulais revenir justement sur ce point-là, sur l'industrie, et puis sur deux autres qui sont dans notre enquête. Si on était en entrée de récession, on n'aurait pas un maintien de l'investissement des TPE-PME. Or, c'est ce qu'on voit, nous. C'était notre surprise.
Un chef d'entreprise sur deux.
Oui, c'est ça. Et normalement, ça devrait chuter. Et l'autre chose qu'on ne voit pas, c'est l'infléchissement des indicateurs de trésorerie. Donc, j'ai cité tout à l'heure celui sur est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour passer la crise, mais ça c'est un indicateur, mais il y en a un autre qui est l'indicateur moyen de sa trésorerie globale hors crise Iran, et sur celui-ci il aurait dû aussi, pour l'avenir, perspective de trésorerie, chuter. Or, il augmente. Donc, je pense que je suis complètement d'accord avec l'analyse de Jean-Marc, et une robustesse de ces entreprises, avec une nuance importante que je vous souhaite aussi apporter, qui est la nuance sectorielle. Alors, dans les transports, effectivement, c'est la catastrophe.
On peut faire le distinguo.
Oui, dans les transports, transport. Il y a une partie des services à la personne, mais et encore, il y a aussi bon les taxis. Je ne vais pas faire la liste des professions. Il suffit de regarder le plan de gouvernement oui. d'hier. Mais donc on voit bien qu'il y a des métiers, des entreprises qui sont très concernées. Mais dans l'industrie, pour y revenir, il y a plutôt des perspectives de croissance importantes pour plein de facteurs. Il y aura le facteur chinois, on y reviendra juste après. Oui. Mais il y a déjà le facteur armement.
Oui.
Il y a le facteur armement. Et quand on, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les statistiques de l'INSEE avec comme point de référence février 2020. Avant Covid, on prend la production manufacturière en France. On regarde quels sont les secteurs qui sont au-dessus, au-dessous. Bah, l'automobile, on est à moins 17. Ça fait 5 ans que ça dure. Oui. C'est pas lié
à la crise au Moyen-Orient.
C'est pas conjoncturel, c'est structurel. C'est une transition qui est en train de s'opérer.
Moins 17% depuis la pré-Covid.
C'est ça. On produit en France moins 17% dans l'industrie automobile qu'en février 2020. Et vous prenez tous les secteurs, et il y en a qui sont largement au-dessus de zéro. La santé, pharmacie, c'est plus 22. Et l'aéronautique, qui était plutôt en négatif jusqu'à l'année dernière, est en train de rebasculer en positif au fur et à mesure que la montée en cadence revient. Il y a eu un petit trou d'air pour Airbus au premier trimestre. On l'a déjà dit, ça peut expliquer la baisse du PIB, la stagnation du PIB, la baisse des exportations en tout cas. Mais l'aéronautique se porte très bien, l'aéronautique, et le civil et militaire.
Et il me semble que l'aéronautique n'a pas encore rattrapé son niveau.
Juste à zéro.
Voilà
c'est
juste
ça.
À zéro.
Juste à zéro.
Et vu que la demande a augmenté, ça veut dire
exactement.
Que ça va soutenir l'activité
exactement.
Dans les prochains trimestres.
Merci.
Voilà, il y a des facteurs positifs qui jouent aussi. Il y a aussi des facteurs négatifs. Moi, j'ai dit résilience des entreprises, et je pense que c'est un point tout à fait majeur. Il y a même beaucoup d'entreprises qui partent à la casse. Et là, il y a un vrai souci.
70 000 défaillances l'année dernière, quand même, à niveau...
Il y a un point de vigilance, même si la trésorerie ne se porte pas trop mal pour l'instant. Voilà, il y a un vrai point de vigilance.
C'est très sectoriel aussi.
Oui.
Donc, est-ce que c'est dû à la crise? Ou est-ce que c'est dû à des phénomènes plus structurels?
C'est plus structurel.
Il y a les deux.
C'est plus structurel. On crée en France aujourd'hui deux fois plus d'entreprises en société qu'il y a 20 ans. Donc, dans une économie qui est... concurrentielle et un peu schumpeterienne, même si elle n'est pas complètement. Schumpeterienne, ça veut dire qu'il y a un renouvellement permanent du tissu économique avec des entreprises plus modernes qui remplacent des plus anciennes. Il y a des phénomènes de génération aussi, hein, des chefs d'entreprise plus jeunes qui remplacent des chefs d'entreprise qui partent à la retraite.
Oui.
Et donc tout ça fait que c'est normal, quand on crée plus d'entreprises, d'en avoir plus qui disparaissent.
Ça monte aussi. Après, 70 000, c'est quand même un niveau élevé. Hein. Historiquement, c'est plutôt 50 000 par an. Arrive avec ça l'investissement chinois. Je me tourne vers vous, Thomas Grébin, vous êtes le grand spécialiste, auteur d'un rapport qui a fait beaucoup de bruit du Haut-Commissariat au Plan, alertant sur la menace de l'industrie européenne, justement, 55% de l'industrie européenne qui serait menacée par la déferlante des produits chinois. Et on a eu ce chiffre publié cette semaine, les investissements directs étrangers chinois en Europe ont augmenté de 67% l'année dernière. C'est absolument colossal. Alors, en volume, en montant, on parle de 16,8 milliards d'euros. Ça reste encore assez raisonnable. Mais quelle lecture vous avez de cette poussée chinoise, de ces investissements chinois qui s'enflamment en Europe?
La première chose, c'est quand on regarde les pays qui bénéficient de ces investissements, le premier pays bénéficiaire, c'est la Hongrie. Notamment sur des investissements sur les batteries ou sur les véhicules électriques. Donc, il y a autour de mémoire, il y a autour de 4 milliards d'investissements en Hongrie. C'est deux fois plus que pour l'économie française. Donc,
pour des raisons économiques ou politiques, BYD, par exemple, la première usine de fabrication de BYD en Europe, ce sera Hongrie.
C'est des raisons les deux. C'est-à-dire que le régime hongrois était traditionnellement beaucoup plus conciliant avec la Chine que la France. Et c'est vrai que la France, par exemple, a un discours ces derniers mois beaucoup plus dur vis-à-vis de la Chine. C'est pas quelque chose qui en soi encourage forcément les investissements en France. Et puis ensuite, les normes sociales, environnementales sont évidemment pas les mêmes en Hongrie que dans un pays comme la France. Il faut se rappeler que depuis les années 2010, il y a eu près de 6 points de PIB de dépenses sociales en moins en Hongrie. Donc on parlait tout à l'heure des efforts budgétaires en France et des réformes nécessaires de la protection sociale.
Bon, l'exemple hongrois. Thomas Grébin nous vante l'exemple hongrois.
Non, je ne vante pas l'exemple hongrois, mais c'est juste qu'on est dans une zone euro où il y a en effet une concurrence qui n'est pas tout à fait égale, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y a un point plus qualitatif, c'est sur la nature de ces investissements, et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que...
On y voit clair, on arrive à voir...
Non, enfin...
une idée assez claire de ce sur quoi on investit, bah, ils investissent.
Il y a les discours donc de nouvelles usines, donc ça c'est sur le papier c'est évidemment très positif. Il vaut mieux que les Chinois mettent leurs usines en Europe plutôt qu'ils exportent, parce que sur le papier ça permet de créer de la valeur, ça permet de créer des emplois sur nos territoires.
Comme ensuite, Toyota l'a fait avant eux en France par exemple.
Exactement, ou c'est ce que voulaient faire par exemple les États-Unis de Reagan. À l'époque c'était face au Japon, ils disaient ok, si vous voulez nous vendre vos voitures japonaises, vous devez les produire.
C'est ce que fait Trump aujourd'hui.
Exactement. Le problème c'est qu'on ne sait pas bien si c'est seulement des usines d'assemblage et donc une grosse partie de la valeur, par exemple sur un véhicule électrique, il y a autour de 30-40% de la valeur, c'est sur les batteries.
La batterie.
Et puis ensuite, même sur la batterie, il faut voir vraiment quelles sont les composantes qui sont produites en Europe. Et donc là, le risque, malgré tout, avec ces investissements, c'est que ce soit essentiellement des usines d'assemblage, que le gros de la valeur reste produites en Chine, un peu ce que nous on faisait européens vis-à-vis de la Chine
dans les
années 2000, et qu'en fait ces investissements soient des portes d'entrée pour atteindre le marché chinois.
C'est très intéressant, quoi. Ça veut dire que ces usines peuvent être simplement, que vous dites très bien, une porte d'entrée, une sorte de coquille vide qui leur permettrait simplement de pénétrer le marché européen hors droit de douane, mais que toute la valeur pourrait être produite en Chine.
Oui, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Thomas, mais même dans ce cas de figure qui semble défavorable à la fin de son exposé, il faut pas oublier le début de l'exposé, qui est que ça reste quand même produit chez nous. Donc même si la maîtrise de la technologie ou l'essentiel de la valeur, 30 à 40%, vous l'avez dit, reste en Chine,
oui.
Ça veut dire qu'on en a 50 à 60 chez nous. Donc c'est quand même mieux qu'une voiture qui est fabriquée en Chine.
Oui, et exportée.
Donc, ça reste quand même préférable. Donc, ces investissements chinois, effectivement, il y a un autre cas que j'ai en tête, qui est tout récent, hein, qui est dans la presse, hein, c'est les usines Stellantis qui vont être mises à disposition des partenaires chinois de Stellantis. Et là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça évite des usines de fermer, donc ça maintient l'industrie. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est que dans ce type de partenariat entre grands groupes, nécessairement à un moment ou à un autre, peut-être pas au début, mais il y a du transfert de techno. Et si c'est pas du transfert de techno, il y a de l'apprentissage. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on a essayé de les faire nous-mêmes, les batteries, les mêmes que les batteries chinoises. On n'y arrive pas. Il y a eu des échecs dans le nord l'Europe, avec des taux de rebut qui étaient à 30%, quand c'est 3% en Chine. Quand on ne maîtrise pas le processus de fabrication, il n'y a pas que la techno, c'est le processus de fabrication. Et ce processus de fabrication, il est à l'endroit où on fabrique.
Mais c'est ce qu'ont fait les Chinois, faire venir des investisseurs étrangers pour
donc,
les copier.
Même si au début on n'a pas la techno, au moins on va apprendre, on va réapprendre à produire ces nouveaux objets qu'on ne sait pas faire. Ça prendra du temps, ça prendra 5 ans, 10 ans, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
La réponse de Thomas et puis Jean-Marc.
Non, je suis d'accord, mais c'est quand même un pari, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à créer des écosystèmes productifs. Ce qu'ont fait les Chinois, c'est-à-dire que quand vous attirez des investissements étrangers, ça marche si en fait les machines sont produites au niveau local, enfin si vous visez à produire si les sous-traitants sont locaux, et donc si vous arrivez à reconstruire une chaîne de valeur sur votre territoire, ce qu'ont fait de nouveau les Chinois. Ce qu'on voit, alors c'est un peu dans la vallée de la batterie, dans le nord de la France, c'était un peu l'objectif, mais on voit que c'est très difficile, parce que, notamment du fait de notre retard technologique. Et donc le risque, c'est que pour faire des transferts de technologie, les Chinois ne vont pas transférer spontanément leur technologie. Donc il faut rentrer dans un rapport de force, et ça, pour l'instant, on a beaucoup de mal à le faire. Et donc oui, à court terme, c'est une bonne nouvelle que des voitures chinoises soient produites dans des usines de Stellantis. Mais le problème aussi, c'est qu'en faisant ça, d'une part, ça va devenir des voitures chinoises et on ne maîtrisera pas forcément la technologie si on n'a pas un rapport de force qui est plus favorable. Et puis d'autre part, ça permet à ces entreprises chinoises d'accéder aussi au marché de distribution des constructeurs européens. Et pour l'instant, c'est ça qui bloque.
Ça veut dire qu'il faut...
On facilite aussi l'entrée de ces constructeurs, la normalisation de ces constructeurs chinois sur le marché européen.
Ça veut dire qu'il faut faire du judo, il faut être stratégique, Jean-Marc Vittori. On n'est pas capable de faire ça?
Le savoir-faire industriel aujourd'hui, c'est en Chine, clairement. Il y a 50 ans, c'était aux États-Unis. Et les Américains ont construit des usines en Europe et ça n'a pas été totalement inutile. Il y a 30 ans, c'était le Japon, ça a été évoqué. Et donc, les Japonais ont fini par construire des usines aux États-Unis, ça a été évoqué, mais aussi en France. Hein. L'usine qui produit le plus de voitures en France aujourd'hui, c'est l'usine Toyota de Valenciennes, qui a produit l'an dernier près de 300 000 voitures, plus du quart de la production française d'automobiles, l'an dernier, a été fait dans une usine japonaise. Et je pense que personne aujourd'hui, autour de ce plateau et plus largement en France, ne dirait il faut absolument fermer cette usine japonaise parce que ce sont les Japonais qui maîtrisent l'organisation. Non, moi je pense qu'il y a eu un certain nombre d'effets, il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'effets bénéfiques du fait d'avoir une grosse usine Toyota à Honin à côté de...
Après, est-ce que les stratégies japonaises et chinoises, est-ce que la culture japonaise et chinoise sont les mêmes? On a beaucoup par exemple, les Chinois apportaient leurs propres salariés usines qui les implantaient à l'étranger.
Regardez ce qui s'était passé quand on a ouvert Valenciennes. Il y avait plein d'ingénieurs japonais, et ça a été dit. Alors, il faut
qu'ils expliquent à nos ingénieurs aussi comment ça fonctionne.
Les Chinois ne sont pas des Japonais, et on est 30 ans plus tard, et on a des stratégies d'entrisme, si je puis dire, qui peuvent être différentes. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas dire... évitons ça, fermons la porte. Ça risque d'accroître encore le déclassement industriel de l'Europe de faire ça. Je pense qu'il faut s'efforcer, au contraire, d'attirer des investissements chinois, tout en étant, en exerçant une vraie forme de vigilance. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une exigence. Alors ça, c'est très débattu en ce moment. C'est pas encore tranché au niveau européen, mais il faut qu'il y ait une exigence de contenu local. C'est absolument évident.
J'allais y venir. C'est la préférence européenne.
Il y a un certain nombre de choses. Il faut aussi renforcer un certain nombre de barrières qui sont tout à fait légitimes. Hein. Quand vous avez une taxe carbone, un mécanisme carbone aux frontières qui s'applique à l'acier mais qui s'applique pas aux voitures, vous avez un vrai problème. Enfin, voilà, il y a toute une série de mécanismes à mettre en place pour que ça marche. Et je pense que il vaut mieux jouer ça que de dire, ben non, on évite ça.
Vous, votre proposition, Thomas, c'était 30% de droits de douane. Hein.
Ouais, mais sans revenir, juste pour revenir à ce que disait Jean-Marc, que je partage, mais je dirais qu'il y a quand même une différence importante avec le modèle japonais des années 80, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie chinoise maîtrise toute la chaîne de valeur. Donc, les complémentarités avec...
Qui n'était pas le cas des Japonais dans les années 80.
C'était beaucoup moins le cas.
La vraie différence, c'est que c'est le changement du mode de propulsion.
L'évolution technologique de l'électrique.
Sur le moteur thermique, les Européens bossaient dessus depuis des décennies, etc. Les Japonais se sont mis, ils ont fait ça très bien. Là, sur l'électrique, les Européens ont résisté. Je pense qu'ils ont une part de responsabilité, les constructeurs automobiles ont résisté à l'électrique, hein, ils ont essayé de reporter les normes sans arrêt pendant que les Chinois investissaient massivement dans l'électrique. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie différence, c'est qu'ils maîtrisent la batterie.
Thomas. Et l'autre différence, on a parlé de la Hongrie, ce qu'il faut voir aussi, c'est le rôle des pays passerelles, c'est-à-dire des pays qui sont la Turquie, le Maroc, ce sont tous des pays qui ont des formes d'accords de libre-échange avec l'Union européenne. Et donc là, il y a véritablement un risque d'une stratégie de cheval de Troie. C'est-à-dire que vous mettez une usine en Turquie, vous mettez une usine au Maroc, et ça permet ensuite de réexporter ces voitures sur le marché européen, alors que les normes sociales, les normes environnementales ne sont pas les mêmes dans ces pays. Donc là, il y a véritablement...
C'est un phénomène qu'on observe d'ores et déjà ou pas?
Oui, c'est quand on regarde les investissements chinois, il y a une part 25%. En gros, qui sont dans ces pays passerelles. Donc, c'est très significatif. Et le risque, c'est quand même une division des Européens. C'est-à-dire qu'on va faire la course pour essayer d'attirer ces investissements chinois, parce qu'en effet, il vaut mieux que l'usine soit dans le nord de la France, du point de vue français, qu'en Hongrie, ou a fortiori au Maroc. Mais donc ça veut dire aussi une stratégie non coopérative entre Européens, et ça veut dire aussi que des pays comme l'Espagne, comme la Hongrie, vont essayer de bloquer toutes sortes de stratégies un peu plus défensives au niveau européen, parce qu'en fait, si vous avez une stratégie plus coopérative avec les Chinois, c'est une façon d'attirer les investissements.
On a déjà connu ça avec Obor, hein, One Belt, One Road, les routes de la soie il y a une dizaine d'années. Oui. On n'a pas tiré de leçons depuis
On a tiré des leçons, notamment sur tout ce qui va concerner la souveraineté, on n'en a pas encore parlé. On a parlé du cas de figure.
On a durci le ton quand même, hein.
Oui, on a durci
le contrôle des investissements étrangers, en France en tout cas.
Encore une fois, s'il s'agit de produire des voitures chinoises, enfin, d'un constructeur chinois, soyons précis, d'un constructeur chinois en Europe, c'est mieux que ce soit construit en Chine. S'il s'agit de racheter des entreprises en Europe, de prendre les brevets et de garder la production en Chine, c'est pas bon, parce que derrière les investissements, il peut y avoir ça. Donc, c'est sur ce point-là que vous avez, je crois, mentionné là à l'instant, qu'il faut être particulièrement vigilant, et on l'est. Et je voudrais rebondir sur un autre propos de Thomas, qui est l'écosystème autour. C'est vrai que la stratégie chinoise, elle a fonctionné il y a 20 ans, parce que dans les coopérations avec les grands groupes européens et américains qui sont allés en Chine, il y avait un écosystème de PME qui s'est constitué tout autour de ces grands groupes. Nous, il faut qu'on continue d'investir dans l'innovation, dans les nouvelles technologies, et, oui. Et on ne peut pas se contenter d'assembler des voitures. Ça ne suffira pas.
Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Jean-Marc Vittori, Philippe Mutrici, Thomas Grébin, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes de diffusion. Vous retrouvez tout de suite Sandra Gandoin pour BFM Entreprise spéciale transmission. Quant à nous, on se retrouve lundi, 9h30. Très bonne journée, très bon week-end à tous. À lundi.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.